Europe 1.
Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans les débats de Punchline sur Europe 1 avec Émilie Zapalski. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes communicante politique avec Jean-Philippe Derosier. Bonsoir.
Bonsoir.
Constitutionnaliste, il faut le dire, sans bafouiller. Et avec Louis de Ragnel. Bonsoir.
Bonsoir, cher Laurence.
Service politique d'Europe 1. On va revenir bien sûr sur l'événement politique du jour. Le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, première ministre, à l'Assemblée nationale. Un peu plus d'une heure et demie, c'est ça, Louis de Ragnel ?
C'est à peu près ça, oui.
À peu près ça. Avec beaucoup de chahuts quand même dans l'Assemblée. C'est toujours assez surprenant.
C'était très dynamique.
Oui, ah, oui, on va dire ça
voix,
comme ça.
Ouais.
Beaucoup de voix. Alors, je ne sais pas si ça venait du banc de la France Insoumise ou du...
On entendait vote de confiance, non ? Voter
ouais,
la confiance.
Ça venait essentiellement de la NUPES.
De la NUPES, mmh. Voilà. Oui. On va ouvrir un peu le spectre. On va écouter Elisabeth Borne, notamment sur les retraites, parce que là, le chahut a atteint son comble, parce qu'elle a parlé de la merde des réformes, les retraites. Écoutez ce qu'elle a dit.
Notre modèle social est un paradoxe. À la fois l'un des plus généreux et l'un de ceux où l'on travaille le moins longtemps. Notre système de retraite est une exception, alors que l'on part plus tard chez la totalité de nos voisins européens. Alors je le dis aujourd'hui, pour la prospérité de notre pays et la pérennité de notre système par répartition, pour bâtir de nouveaux progrès sociaux, pour qu'aucun retraité avec une carrière complète n'ait une pension inférieure à 1100 euros par mois, pour sortir de situations où le même métier ne garantit pas la même retraite, oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. Notre pays a besoin d'une réforme de son système de retraite. Elle ne sera pas uniforme et devra prendre en compte les carrières longues et la pénibilité. Elle devra veiller au maintien dans l'emploi des seniors. Mon gouvernement la mènera dans la concertation avec les partenaires sociaux en associant les parlementaires le plus en amont possible. Elle n'est pas ficelée, elle ne sera pas à prendre ou à laisser, mais elle est indispensable.
Voilà pour Elisabeth Borne. Elle tient le cap quand même, hein, Louis de Ragnel, malgré le chahut, malgré les vociférations des uns et des autres.
Ben elle s'est pas laissée déstabiliser et même parfois elle a esquissé quelques sourires. On savait pas si c'était d'ailleurs des sourires de gêne ou presque des sourires moqueurs. Non, ce qui est intéressant, c'est que dans cette séquence, en fait, elle essaye de parler clairement à la droite, elle essaye d'expliquer aux Républicains que sur un certain nombre de sujets, il n'y a pas que la question de la réforme des retraites, elle a aussi parlé de la responsabilité budgétaire, elle a parlé de l'émancipation par le travail, la liberté d'entreprendre, voilà, que des thèmes qui peuvent sonner dans l'oreille de députés LR. Elle parlait aussi de l'équilibre entre les droits et les devoirs, c'est quasiment des phrases sarkozystes. Et donc voilà, l'objectif là, c'était de montrer à la fois effectivement qu'il y avait un cap, cette volonté d'avancer, de confirmer les annonces d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Et puis voilà, cette volonté de parler à la droite. Simplement, un petit mot pour terminer. Tout ça a été très intéressant. Mais après, il y a une seule question qui se pose. C'est de toutes ces mesures qui sont annoncées, combien vont réellement voir le jour ?
Évidemment. Et combien seront votées ?
Grande énigme, grande question.
Émise,
très intéressant. Je reviens sur votre expression. C'était très intéressant. C'était déjà très entendu. On connaissait déjà. En fait, on connaissait la plupart des mesures. La seule confirmation que ça donnait, c'est que c'est le programme d'Emmanuel Macron, premier tour de la présidentielle, parce qu'après ça a beaucoup évolué. Et je reviens sur son terme, elle dit la réforme des retraites, le pays en a besoin. C'est pas ce qu'ils ont dit au fur et à mesure, c'est-à-dire que Emmanuel Macron en a parlé en amorce de la présidentielle en disant réforme des retraites, donc un programme très à droite, parce qu'à la limite, il pensait qu'il allait être élu les doigts dans le nez, ce qui n'a pas été le cas. Il a beaucoup évolué après en disant ce sera peut-être pas à 64, ce sera peut-être pas, on va le faire plus loin, on va le faire pas forcément à cet âge-là. Et puis il a même dit c'est pas indispensable puisque finalement le système financier s'équilibre et surtout si c'est indispensable, c'est pour donner de l'argent frais pour la dépendance par exemple ou quoi. Donc il y a une façon très bizarre et je pense en effet que le message principal qui a été donné en parlant de la réforme des retraites comme ça sans aucune précision parce que là il y a pas d'âge, il y a rien, c'est comme de donner des gages aux Républicains pour qu'ils puissent voter cette réforme si jamais elle est sur la table, pour espérer qu'ils puissent la voter. C'est des gages donnés, vraiment, c'est que ça, hein, ce message.
Jean-Philippe Derosier, qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours ?
Je vous trouve un petit peu sévère, parce que, effectivement, vous êtes juste dans ce que vous dites, il y a eu des messages incontestablement vers la droite de l'hémicycle, sans doute grand nombre et en majorité. Mais il y avait aussi des messages pour la gauche, notamment au début du discours. Elle a parlé pouvoir d'achat avec la loi qui va arriver, revalorisation des retraites, augmentation du point d'indice des fonctionnaires, toutes des mesures auxquelles on s'attendait mais qui ont été confirmées, les bourses pour la scolarisation des plus bas revenus, enfin des enfants issus de milieux défavorisés, un mot pour l'environnement aussi. Elle envoyait un petit peu un message à tout le monde en disant ça c'est vraiment pour toi, ça c'est vraiment toi.
Elle a fait des appels au président en voulant
effectivement séduire la droite, ça, c'est une évidence, mais sans affoler la gauche en disant bon, il y aura aussi des mesures pour vous sur l'environnement, il y aura des mesures pour vous sur le pouvoir d'achat, il y aura des mesures pour vous sur les salaires, etc. Parce que si elle ne parle qu'à la droite, elle risque d'affoler la gauche, et à ce moment-là, effectivement, on peut aboutir à un point de blocage si la droite, à un moment donné, la lâche. Hein. Donc il faut avoir un message d'équilibre. On retrouve cette « en même temps » chère à la Macronie, avec une jambe plus forte à droite qu'à gauche. Ça a toujours été le cas, mais quand même, je vous trouve
juste
sévère en disant que ce n'est que sur la droite.
On a quand même des marqueurs forts à droite, ne serait-ce que le déficit, retour de la rigueur budgétaire en 2027. On va repasser le déficit en dessous des 3%. Excusez-moi, mais si ça, ce n'est pas quand même des signaux pour la droite.
Bien sûr.
Et même l'extrême droite, hein, parce qu'on a vu des choses récemment, des appels du pied discrètement aux députés du Rassemblement National, des votes aussi, hein, pour que des députés du Rassemblement National soient vice-président de l'Assemblée nationale. On sent quand même que c'est en même temps, non, la jambe gauche, elle n'est plus tellement là. C'est quand même forcément à droite.
Le bouclier tarifaire sur l'électricité et le gaz, c'est pour la gauche.
Oui, mais c'est des mesures qui existaient déjà.
La protection
déjà
de l'environnement, tout ce qu'elle a parlé sur l'environnement, c'est pour les écologistes.
Et la nationalisation d'EDF, c'est pour qui?
C'est plutôt pour
la gauche de l'hémicycle, d'accord, évidemment.
Ouais, ça dépend, hein, en fait, comment c'est perçu.
Mais
parce
effectivement,
que
c'est un petit peu un entre-deux.
Ça a été vendu
parce qu'il y a un retour sur capital.
Une forme de retour de l'État stratège. C'est comme ça que c'est vendu. L'enjeu n'est pas économique. L'enjeu, parce que d'ailleurs, il y a tellement de dettes chez EDF. L'enjeu, c'est vraiment de montrer que cette entreprise représente une valeur extrêmement importante compte tenu de la guerre en Ukraine, de la hausse du prix de l'énergie et des besoins énergétiques qui sont croissants. Et donc voilà, pour moi c'était une évidence. C'était la confirmation d'une tendance qui se dessinait quand même depuis plusieurs semaines.
Mais juste sur, je pense que en effet, il y a eu de petites choses qui sont, et c'est ce qu'avait fait Emmanuel Macron d'ailleurs dans l'entre-deux tours de la présidentielle, en essayant d'aménager son projet pour qu'il plaise aussi aux écolos et à la gauche, puisqu'il avait besoin de leur voix pour être élu. Mais simplement, là, on agite quand même la réforme des retraites. On sait d'abord que ça clive beaucoup, enfin que la majorité des Français sont contre. Et en plus, c'est un projet, ça permet à la limite à la NUPES de dégainer son projet complètement opposé, ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon pendant les législatives et pendant la présidentielle. Ça permet d'opposer deux projets de société très différents. Vous voulez travailler de plus en plus longtemps, vous voulez équilibrer les comptes, ou vous voulez travailler moins parce que c'est le bien-être des gens et on va trouver par la solidarité une autre façon de s'organiser. Finalement, elle donne du grain à moudre pour la gauche pour s'opposer au projet, il me semble.
Alors, mais sur certains, disons que sur chaque projet, il y aura à construire une majorité.
C'est du cas par cas, là, c'est du mode projet.
Sur chaque réforme. Et comme ils ne veulent pas mener une politique exclusivement de droite, visiblement, ils auraient pu faire ce choix-là, mais ce n'est pas leur souhait, je pense que ça n'aurait pas forcément été gagnant, eh bien, il faut qu'ils rassurent un petit peu tout le monde. Alors, ils renforcent surtout la jambe droite, on l'a vu, ne serait-ce qu'avec la nomination, enfin, le remaniement du gouvernement, l'arrivée de Franck Riester aux relations avec le Parlement est un signe pour la droite, mais il y a quand même eu des messages pour la gauche pour ne pas dire « on va se tourner que vers la droite de l'hémicycle ». Pour la réforme des retraites, j'abonde dans votre sens. Pour la loi sur le pouvoir d'achat, qui est la première loi qui va arriver, où le gouvernement sera encore minoritaire au moment de la discussion, donc il va avoir besoin d'un certain nombre de soutiens. Là, elle se tourne plutôt vers la gauche de l'hémicycle.
On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1. On entendra Elisabeth Borne justement parler de ce compromis. Comment parler à tous les groupes, comment trouver des majorités au cas par cas. On l'entend dans un instant dans Punchline sur Europe 1. A tout de suite, il est 19h27.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.